RFI. Grand reportage.
Il y a deux ans, la Slovaquie était secouée par un double meurtre. Deux fiancés de 27 ans, un journaliste d'investigation, Jan Kuciak, et sa compagne, Martina Kouchnirova, tuée par balle à leur domicile. Pour les Slovaques, aucun doute, le jeune couple a été assassiné sur l'ordre d'une figure de la mafia, un homme qui avait corrompu des policiers, de hauts magistrats et des responsables politiques au pouvoir, et menacé Jan Kuciak qu'il avait mis en cause dans l'une de ses enquêtes. Dans ce pays de 5,5 millions d'habitants, c'est la colère immédiate et des foules qui descendent dans la rue réclamer justice, un mouvement d'une ampleur inédite. Deux ans après l'assassinat de Jan Kuciak, la soif d'intégrité de la Slovaquie, c'est un grand reportage d'Anissaël Jabri.
Capuche, bonnet et écharpe dans le froid et les rafales de vent glacial. Des passants viennent déposer et allumer de petites bougies rouges, des dizaines et des dizaines de petites lumières qui brillent sous un portrait de Jan Kuciak et Martina Kouchnirova posé à même le sol d'une place de Bratislava. Les visages souriants du jeune couple sont partout ce jour-là dans la capitale et dans des dizaines de petites villes de Slovaquie. Ce 21 février marque les deux ans de leur assassinat. Face à une foule grave, silencieuse, un podium, il monte à petits pas lourd de chagrin, une silhouette aux cheveux courts, du gris mêlé à du blond. Zlatica Kouchnirova est la mère de Martina. Deux ans de deuil et de manifestation, deux ans que tous les Slovaques connaissent son visage, ses mots étranglés de larmes. Son récit, il l'écoute encore une fois dans un silence épais.
La dernière fois que j'ai eu ma fille au téléphone, elle était en train de dîner. Je l'ai rappelée à 20h15. Elle n'a malheureusement pas décroché. Elle ne pouvait pas parce que l'assassin était dans la pièce. Et moi, je regrette tellement de ne pas avoir été là pour pouvoir les protéger. Toute personne qui a perdu un enfant sait à quel point cela fait mal. Que peut-il y avoir de pire? Cela ne doit plus jamais arriver.
Les larmes coulent sur le visage de la mère de Martina Kouchnirova. La colère reste intacte chez ceux qui l'écoutent.
Ce qui s'est passé avec ce journaliste et sa fiancée, c'était un non-sens, une absurdité. Et ce sont des enfants qui ont l'âge de nos enfants, comme ma fille que vous voyez à côté de moi.
C'était des enfants de l'âge de nos enfants et ils sont morts d'une mort si horrible. Et ils ne disaient que la vérité.
Toute la société slovaque, aux racines encore rurales, aux valeurs plutôt conservatrices, s'est profondément identifiée à ce jeune couple, sérieux, rangé, deux jeunes qui allaient se marier et qui venaient d'un milieu modeste. Les familles de Jan Kuciak et de Martina Kouchnirova, des ouvriers, sont réunies dans la maison de la mère de la fiancée. On est après la messe d'hommage, privée, dans le village de la jeune fille. C'est dans la campagne, à plus de 4 heures de route de Bratislava. La mère de Martina Kouchnirova accueille. Les parents sont serrés les uns contre les autres sur le canapé, une enfant sur les genoux. Quelques rires et des plaisanteries, comme pour mieux conjurer la gravité du moment. Assis sur un fauteuil, Jozef Kuciak était très fier du travail de son frère, inquiet aussi, après qu'il ait reçu des menaces.
Toute la famille a eu peur, alors on l'a appelé et on lui a écrit et il nous rassurait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas peur ou si c'était parce qu'il ne voulait pas que nous ayons peur, mais il disait qu'il ne pouvait rien lui arriver, au pire un procès, ou alors qu'on lui crève les pneus de sa voiture. On n'aurait jamais cru que ça puisse finir comme ça.
Quand vous avez appris son décès, vous vous souvenez si vous avez pensé que c'était lié à son travail ?
Oui, tout de suite. Nous le connaissions bien, nous savions qu'il n'avait de conflit avec personne, que tout allait bien dans son couple. Alors nous tous, quand on a appris ça, je ne sais pas si c'était à cause des menaces ou par instinct, mais vraiment tous, on a crié « Kushner, Kushner ».
Je pense que tous les gens ont crié « Kushner, Kushner ».
Marian Kushner est un des mafieux les plus connus de Slovaquie. Grosse voiture, chemise ouverte sur torse poilu, il a l'insulte et la menace facile. C'est un homme qui se permettait tout, comme détourner les fonds européens pour l'agriculture. C'était une des dernières enquêtes menées par Jan Kuciak. Dans les couloirs du journal où il travaillait, tout le monde se souvient d'un journaliste très investi et très doué.
Je m'appelle Marek Vagovic. Je suis le chef du service investigation du journal Actuality.sk. J'étais le supérieur hiérarchique direct de Jan Kuciak.
Comme beaucoup de ses collègues, Marek Vagovic a vécu avec une protection rapprochée les premières semaines après les meurtres. Il a donné énormément d'interviews aussi. Inlassablement, il rappelle quel journaliste était Jan Kuciak.
J'ai fait connaissance de Jan en 2014 à l'occasion d'un concours pour jeunes journalistes. On avait fait appel à moi pour que je sois le tuteur d'une des personnes des équipes. Jan a attiré mon attention dès la première rencontre. J'ai vu qu'il maîtrisait ces sujets. Tout de suite, après l'avoir rencontré, je lui ai proposé de travailler avec moi. D'abord, ça a été dans un hebdomadaire, puis ensuite ici, à Actuality.sk. C'était à l'automne 2015, quand on a monté le service investigation. Jan était un journaliste exceptionnel, et à l'échelle slovaque, son travail était comparable à celui des spécialistes de haut niveau international. Et je peux affirmer que si aujourd'hui il était encore en vie, il pourrait être dans n'importe quelle équipe d'investigation au monde. Il ferait partie des stars, il sortait vraiment du lot. J'ai beau avoir 20 ans de carrière, il me dépassait largement.
Appel d'offres publiques truquées, implication des oligarques proches du parti au pouvoir, détournement d'argent, contrats gouvernementaux opaques, implication de la mafia italienne. Les révélations se succèdent et la charge de travail est devenue plus lourde. Laura Kelova le sait bien.
Je suis arrivée à la rédaction juste après l'assassinat. Ça a été pour moi quelque chose de très symbolique. Je devais commencer le 26 février et ce jour-là, je me suis habillée pour aller à ma première journée de travail. Et juste avant de partir, j'ai lu sur Internet qu'on venait d'apprendre que Jan Kuciak avait été tué. Donc je suis restée à la maison pendant 3 jours et je n'ai pas donné de signe de vie ni appelé personne pour ne pas déranger. Quand la situation s'est un peu calmée, le rédacteur en chef m'a appelé et il m'a dit de venir travailler parce qu'ils avaient besoin que quelqu'un reprenne les enquêtes que Jan n'avait pas pu finir. On travaille bien sûr sur de nouveaux dossiers, mais comme il nous a laissé beaucoup d'informations, de notes, de données récoltées, aujourd'hui on est vraiment en mesure de reprendre son travail.
C'est aussi Laura Kelova qui est chargée de suivre le procès du meurtre de Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova. Un procès qui a commencé en décembre et se poursuit jusqu'au printemps. Un procès qui tient tout le pays en haleine.
Beaucoup de gens ont été tout particulièrement touchés par la première journée du procès. C'est là que le tueur a témoigné pour la première fois. Il a avoué l'assassinat et il a expliqué comment il s'y était pris, comment il avait fait ses repérages. Il racontait d'une façon extrêmement froide et calme comment il avait adapté son arme et ses balles pour qu'elles aient moins de poudre, pour que les tirs ne fassent pas trop de bruit, comment il avait aussi ajouté un silencieux sur son arme. Il était en train de parler de la façon dont il avait assassiné mon collègue sur le même ton qu'il aurait raconté ses courses au magasin du coin.
La froideur et la facilité à commettre un meurtre choc, les difficultés et les obstacles pour qu'enfin un procès se tienne aussi. On est allé en parler avec Roman Kvasnitsa, l'avocat de la famille de la fiancée du journaliste. Il a son cabinet dans une petite ville thermale, c'est à un peu plus d'une heure de la capitale. Dans le bureau de Roman Kvasnitsa, une grande table ovale avec 10 sièges en cuir, une bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages de droit. Et juste à côté, une toute petite cuisine, c'est l'hospitalité slovaque. Avant l'entretien, on apporte sur la table du café, de l'eau, des pâtisseries.
Servez-vous, goûtez ça, c'est aux noisettes, c'est comme un millefeuille. Et ça, c'est au marron. Bon, qu'est-ce qui vous intéresse ?
Non,
la soixantaine calée au fond d'un grand fauteuil. L'avocat de la famille de la fiancée de Jan Kuciak a le regard tour à tour pétillant ou dur. Des années qu'il affronte les oligarques slovaques. Mais cette affaire, elle est pour lui complètement hors norme.
L'enquête avant le procès a été très difficile. On a fini par apprendre que Marianne Kushner, le mafieux commanditaire de l'assassinat, était dès le début au courant de chaque étape de l'enquête, au courant de chaque fait et geste de l'équipe de policiers. Ces policiers, nous avons toujours confiance en eux aujourd'hui parce que ce sont leurs supérieurs qui étaient à l'origine des fuites. Même l'exécutant a avoué devant le tribunal qu'avant que l'on comprenne ce qu'il se passait, lui aussi avait été au courant de chaque étape de l'enquête. C'était la même chose pour tous les intermédiaires impliqués. Ça a été un constat terrible. Je ne pensais pas que les ramifications criminelles allaient aussi loin, que le système judiciaire était autant sous contrôle, et ça de manière très primitive. Au tout début, Marianne Kushner a même été capable de diriger par téléphone l'enquête et l'instruction. Moi, j'imaginais des tête-à-tête discrets, alors que non, ça se passait avec un simple coup de fil.
Durant l'enquête, les Slovaques sont suspendus à chaque révélation. Ils descendent dans la rue, ils obtiennent la démission du chef de la police, celle du ministre de l'Intérieur, celle du Premier ministre. Pendant ce temps-là, aucune protection n'est accordée à Roman Kvasnitsa. L'avocat redouble de prudence.
Moi, je suis chasseur. À cette époque-là, je me suis mis à faire moins de promenades dans la nature pour qu'on ne puisse pas me suivre. Vous savez, les criminels savent suivre le moindre de vos mouvements, surtout quand ils arrivent à collaborer avec la police. Forcément, ils se retrouvent avec beaucoup de moyens à leur disposition, comme ceux de localiser votre portable pour connaître vos habitudes. Donc, il faut tout bouleverser pendant une période.
L'avocat réputé à Bratislava mesure bien le danger. Dans l'est de la Slovaquie, pour ceux qui osent s'exprimer contre les oligarques, les menaces sont un quotidien, la violence une réalité. Comme à Oumene, une ville à 40 km de l'Ukraine, il faut sortir de l'autoroute pour rejoindre cette petite ville entre champs et usines de chimie pour y retrouver Patrick Magdoshko. Cheveux blonds sous un chapeau de cow-boy en paille, silhouette trapue, juché sur un tracteur, ce fermier, on le voit arriver de loin. Patrick Magdoshko a les mains pleines de tracts, il les distribue avec trois autres fermiers entre deux tours d'immeubles à la sortie d'un centre commercial.
Enfin du soleil. Pendant trois jours, on n'a eu que de la pluie, de la neige, mais moi ça va, tout va bien.
Patrick Magdoshko a décidé il y a quelques mois de lancer un parti politique et de se présenter aux élections législatives qui se tiennent dans quelques jours. Son mot d'ordre, c'est aussi le nom de son parti. Il s'étale sur ses tracts quelques mots simples. Il y en a marre.
Moi, pendant 3 ou 4 ans, je me suis battu contre le système de vol de la terre et des biens ici en Slovaquie de l'Est. Et franchement, c'est ici que c'est le pire, des tas de vols. Quelqu'un peut acheter un bâtiment pour 1 euro alors qu'il en vaut plusieurs dizaines de milliers. Alors, j'ai mis en place une équipe pour se battre contre la corruption. Mais quand je dis à un mec normal à Bratislava ce qu'il se passe ici à l'Est, il pense que je lui raconte un film. Surtout quand je lui dis que je ne sors pas sans batte de baseball et sans couteau. Ici, la plupart des gens ont ça dans leur voiture parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Dans cette région très pauvre, à l'autre bout du pays, personne ou presque pour se plaindre à la police.
Moi, je disais toujours à ma femme, mais de quoi tu as peur ? Elle me répondait, tu parles trop, tu touches à de trop gros intérêts, tu as fait perdre un marché de 200 000 euros à une société. Un jour, ils vont finir par te tuer. Et moi, je lui disais, mais non, ici, on ne tue pas les gens. Ça, c'était dans les années 90. Mais un matin, elle m'a réveillé en me disant, lève-toi, debout. Elle m'a dit, regarde ça. Tu disais que les gens ne se font pas assassiner. Ils ont assassiné Kouchiak parce qu'il écrivait sur les oligarques. Et toi, ce que tu leur fais, c'est encore pire. Tu nous mets en danger, nous tous et ma famille. Alors pendant une journée, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Et finalement, j'ai décidé de m'engager davantage. On s'est unis pour prendre notre courage à deux mains, prendre nos tracteurs et aller manifester à Bratislava. Mais la vraie manifestation la plus importante, c'est le 29 février, pour tous leur dire « Allez vous faire foutre !»
Patrick Magdoshko parle bien sûr du parti au pouvoir, le SMER-SD, accusé d'avoir cédé à l'argent de la criminalité. Les municipales, la présidentielle, le parti a perdu toutes les élections intermédiaires depuis le meurtre de Jan Kuciak et de sa fiancée. Pour ces législatives, le parti est presque invisible. Pour entrer au siège du SMER dans un quartier éloigné du centre de Bratislava, il faut montrer patte blanche. Pas de militants, pas d'affiches de campagne, mais deux candidats qui acceptent, c'est rare, de rencontrer la presse étrangère, comme Éric Calignac.
Cette fois-ci, nous avons décidé de faire les choses un peu différemment. On fait toujours des meetings, mais on en fait des plus petits. Nous faisons campagne. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, nous faisons beaucoup de vidéos et de photos. Il y a des meetings, ils sont un peu plus personnels cette fois-ci. Pour le président de notre parti, il s'agit de renforcer le cœur de notre électorat.
Les militants se concentrent sur le cœur des électeurs, tant la base du parti se rétrécit. Ces élections en Slovaquie sont en fait devenues, en quelque sorte, un référendum contre le pouvoir. Ce qui choque notamment, c'est son rapport à la presse slovaque, souvent insultée et particulièrement pointée du doigt. Sale prostituée anti-slovaque, hyène idiote, serpent visqueux. Voilà ce que les journalistes, même après le meurtre de leurs collègues, ont pu entendre. De son côté, le candidat Jan Mazgut assume.
Tous les journalistes, pas seulement les Slovaques, tous les journalistes doivent écrire et décrire la situation telle qu'elle est. Mais ils essayent de faire passer leur opinion auprès des gens. En fait, les journalistes donnent leur opinion. Ils ne décrivent pas la réalité, ils la fabriquent. Et on dénonce ce genre de choses. C'est probablement ce qui rend les journalistes nerveux.
Comme mon collègue vient de le dire, ils ont décidé de ne plus publier des faits, mais de se concentrer sur le commentaire. Un des plus gros problèmes pour nous, c'est que les médias sont financés par des entreprises privées. Et ces groupes financiers financent aussi des partis politiques qui sont actuellement dans l'opposition. Et ils essaient de frapper le pouvoir, ici, chez nous, et de détruire le SMER.
L'opposition, c'est dans ce pays presque une dizaine de partis. Parmi eux, le parti Olano. Olano, ça veut dire le parti des gens ordinaires et des personnalités indépendantes, un petit parti dirigé par Igor Matovic. Toujours le sourire aux lèvres, c'est un extraverti friand des médias et des actions coup d'éclat. C'est un candidat aussi qui, lors des cérémonies de commémoration pour le meurtre de Jan Kuciak et de Martina Kouchnirova, qui n'hésite pas à utiliser l'émotion et ça, dès le tout début de son discours.
Soyez bienvenus, vous les gens courageux, vous qui n'oubliez pas deux personnes courageuses qui auraient pu vivre si le gouvernement au pouvoir n'avait pas pensé que le pays leur appartenait. Ils ont créé un système dans lequel Marianne Kushner pouvait penser qu'il était au-dessus des lois. Ils ont créé un système dans lequel cet homme pouvait penser que c'est lui et non pas Dieu qui décide de qui doit vivre et qui doit mourir.
Quelques mètres plus loin, juste après le rendez-vous des partis politiques, le mouvement pour une Slovaquie intègre tenait son 16e rassemblement à Bratislava. 10 000 personnes dans la capitale, aucune consigne de vote de sa porte-parole Karolina Farska, mais un appel clair et net à sanctionner le pouvoir.
Depuis le début, nous avions deux demandes principales. La première, c'était qu'il y ait une enquête sur le meurtre de Jan et Martina. Notre deuxième exigence était un nouveau gouvernement en qui on peut avoir confiance. Aujourd'hui, nous savons que ça ne peut être possible qu'à l'issue des législatives qui sont prévues dans une semaine. Ces élections sont des élections clés. Elles ouvriront un nouveau chapitre pour la Slovaquie, pour nous tous. Elles décideront s'il y aura un nouveau gouvernement avec les gens du même clan liés à la mafia qui travailleront main dans la main avec les extrémistes ou bien s'il y aura au pouvoir un gouvernement de la justice, de la décence et de l'intégrité.
L'hymne de la Slovaquie, il retentit dans la nuit glaciale, illuminé par les mains qui brandissent des petites lumières, des briquets ou des téléphones. La place se vide en quelques minutes. Veille sur ce large espace une sculpture de 2 mètres. Les deux visages des deux jeunes gens assassinés et ce message en toutes lettres « Vous nous avez réunis ». 4 200 000 Slovaques ont rendez-vous avec les urnes ce samedi.
2 ans après l'assassinat de Jan Kuciak, la soif d'intégrité de la Slovaquie, un grand reportage d'Anissa El-Jabri, réalisation Pierre Chaffangeon.